Monsieur Pierre Lévy, bonjour. Vous êtes architecte et spécialisé dans la rénovation écologique, c'est cela ?
Oui, effectivement. Nous avons un cabinet de 5 à 6 personnes qui réalisons donc des réhabilitations, aussi bien pour des particuliers que pour des collectivités telles que des OPAC, pour des logements sociaux.
D'accord. Et vous êtes l'auteur d'un livre, La rénovation écologique, et c'est donc un ouvrage qui met l'accent sur modifier son appartement, son logement, sa résidence principale ou secondaire en utilisant les principes fondamentaux de la rénovation écologique. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les principes fondamentaux de la rénovation écologique ?
C'est relativement simple. Dans un premier temps, il s'agit d'isoler le plus possible. Lorsque vous isolez, vous diminuez donc les besoins de chaleur, donc diminuez les consommations. Une fois que vous avez diminué ces besoins de chaleur et de chauffage, vous devez donc prendre plutôt des énergies renouvelables telles que le bois ou le solaire, de telle manière que ne pas utiliser d'énergie fossile ou d'énergie nucléaire.
Donc l'idée, c'est de dire qu'une maison d'un habitat ancien, la plupart du temps, l'isolation n'était pas à son maximum, il y avait peut-être des ponts thermiques, et vous allez faire en sorte d'éviter tout ça.
Alors dans les différents projets qui sont illustrés donc dans la troisième partie du livre, vous avez des maisons qui ont été beaucoup isolées,
oui.
Notamment une de notre agence qui est ce qu'on appelle une réhabilitation passive. Les besoins de chauffage ont diminué, donc ils étaient de 265 kWh par mètre carré par an, qui est l'unité actuellement de mesure. Ils sont donc passés de 265 à 15 à 19 kWh par mètre carré par an, donc une diminution extrêmement importante grâce à la pose d'isolation extérieure, 26 cm pour les murs, 35 pour la toiture, une quinzaine pour le plancher bas, grâce au vitrage triple.
Oui.
Type menuiserie passive, grâce à une ventilation double flux.
D'accord. Bon, si je comprends bien, les isolants extérieurs, étaient-ce des isolants plutôt labellisés écolo ou des isolants plus traditionnels ?
Pour diminuer les consommations de chauffage, quel que soit l'isolant, ça fonctionne.
D'accord. Bon, maintenant après.
Du polystyrène, de la laine de verre, de la laine de bois, de la boîte de cellulose, vous pouvez diminuer les consommations énergétiques.
D'accord.
Alors après, c'est vrai qu'on, nous, on préfère les matériaux écologiques.
Ouais.
On préfère aussi des matériaux, c'est une autre notion qui est un peu plus difficile à comprendre, mais des matériaux qui ont nécessité peu d'énergie pour leur fabrication.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'énergie grise.
Ce qu'on appelle l'énergie grise.
Ouais.
Voilà. Parce que lorsque vous tendez vers une consommation zéro, voire une consommation positive, par exemple avec du photovoltaïque, comme c'est le cas dans certains de nos projets, on se pose la question après de l'énergie nécessaire à la construction de la maison ou à sa réhabilitation.
Ouais.
C'est vrai qu'on a un petit élément, on préfère effectivement ces matériaux dits nouveaux ou dits écologiques.
D'accord.
Néanmoins, lorsqu'on est dans des cas de logements sociaux ou dans des cas de clients qui ont des petits budgets, en extérieur, il vaut encore mieux mettre un matériau, je dirais, moins sain,
oui.
Mais qui permet de diminuer les consommations et qui permet de diminuer notre dépendance
énergétique
vis-à-vis du pétrole ou du gaz.
Ensuite, il y a un deuxième problème qui se greffe là-dessus, c'est que si nous isolons la maison, nous allons, je dirais presque, la rendre étanche à l'air extérieur. Or, pour des raisons de santé publique, surtout des habitants, il vaut mieux avoir un air renouvelé. Et là, vous nous avez parlé, dans votre exemple cité, là, d'une ventilation double flux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça donne, en fait, cette ventilation double flux ?
Alors effectivement, pour revenir un petit peu en arrière, il y a
des
cas de pathologie lorsque les gens changent les menuiseries sur des maisons sans modifier la ventilation, et on a des cas d'apparition de moisissures à l'intérieur au pourtour des menuiseries généralement.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, les anciennes menuiseries n'étaient pas étanches à l'air, et donc la ventilation se faisait, je dirais, un peu naturellement par l'inétanchéité des anciennes menuiseries.
Oui.
Et lorsque vous changez les nouvelles menuiseries qui, elles, sont étanches à l'air, la vapeur d'eau à l'intérieur de la maison ne peut plus partir, et donc elle condense sur la paroi la plus froide, entraînant donc des moisissures qui sont tout à fait préjudiciables pour la qualité sanitaire des habitations.
Mm-hmm.
Alors après, dans une réhabilitation performante au point de vue énergétique, ce qu'on aime bien installer, c'est effectivement une ventilation double flux, c'est-à-dire que l'air qui est extrait croise l'air qui rentre et le réchauffe. Oui. Le croise sans mélange, bien évidemment. L'avantage, c'est que l'air qui rentre dans la maison est réchauffé. Donc, par exemple, aujourd'hui, il fait plutôt froid sur un peu toute la France. Au lieu d'avoir un air qui rentre à moins 3, moins 4, moins 5 ou à 2 degrés, il va rentrer à 15 degrés à peu près. Donc, ça crée des sensations de confort beaucoup plus importantes. Mm-hmm. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est pas toujours très facile à installer, parce qu'il est nécessaire d'avoir deux séries de gaines, des gaines pour donc l'extraction dans les salles de bain, cuisine, et des gaines pour le soufflage pour les chambres et le séjour.
D'accord. Oui, donc ça c'est une rénovation qui est un peu lourde parce que ça oblige à mettre des tuyaux en plus quoi par rapport à ce qui était existant.
Généralement. Alors après ça dépend dans les habitats anciens, souvent on a des ventilations naturelles. Mmh. Donc là il faut effectivement mettre un système. Dans des habitats plus récents, je dirais à partir de 75, on a souvent des ventilations dites simples flux, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'air qui est extrait donc, dans les salles de bain, cuisine, WC, et ensuite l'air rentre dans les petites grilles que vous connaissez en haut des fenêtres, et rentre à température extérieure. Alors, bon, tout n'est pas une obligation, donc vous verrez dans le livre, il faut d'abord faire un bon diagnostic, je dirais, patrimonial de la maison ou de l'immeuble, un bon diagnostic architectural de cet immeuble, et ensuite choisir les meilleurs systèmes. Dans certains cas, une ventilation naturelle peut être conservée. Vous avez des cas, par exemple, le cas de l'immeuble de Bron, là, c'est 32 logements, où on a réhabilité une ventilation naturelle et les habitants en sont très contents. La consommation n'est pas celle d'une maison passive, mais vous avez une consommation qui est quand même très raisonnable.
Oui, tout à fait. Je pense que ça, ce qui est très bien dans votre livre, c'est que vous commencez par expliquer que il faut faire un diagnostic de l'existant, et en fonction de l'existant, on va faire du sur-mesure au niveau de la rénovation pour être le plus performant possible, sans tomber dans du ridicule, quoi.
Moi, je pense qu'il est nécessaire de faire des compromis et avoir une bonne compréhension du bâti existant, une bonne compréhension de son architecture. Il faut absolument, je dirais, défendre l'architecture, parce que bon. Je suis aussi associé avec un architecte du patrimoine. Oui. On voit bien que les bâtiments qui résistent dans le temps sont des bâtiments qui ont une bonne qualité architecturale. Oui. Donc si vous travaillez sur un bâtiment qui a des qualités architecturales, ben, il ne faut évidemment pas les détruire. Puis si vous travaillez sur un bâtiment qui a peu de qualité, ben, il faut si possible en créer. Mm-hmm. Créer des qualités architecturales de vue, de volume, de lumière, de couleur. C'est une des garanties du succès de l'opération et de la durabilité du bâtiment. Il faut trouver la meilleure solution qui est un compromis entre la technique, l'architecture, l'économie du projet, bon, et qui est spécifique à un bâtiment et à ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, un client, un propriétaire de ce bâtiment, qui a sa propre histoire dont il faut tenir compte.
Oui, c'est vrai qu'on est au confluent de plein de tendances, quoi. En plus, les bâtiments de France, très souvent, suivant l'implantation de l'immeuble ou de la villa, donnent aussi leur avis et parfois ils ont du mal à accepter des rénovations trop importantes en termes de changement de style.
Ça dépend de... Ouais. Ce qu'on appelle les architectes des bâtiments de France, ils ont un service qui s'appelle Service départemental de l'architecture et du patrimoine. Mmh. Donc en fait, ils ont cette double casquette, architecture et patrimoine. Alors après, c'est aussi une question d'hommes et de femmes, suivant les gens qui sont responsables de ces services. Ils vont défendre soit plus le patrimoine, soit plus l'architecture. Oui, nous, on a la chance, sur le département du Rhône, d'avoir un service qui est dirigé par Pierre Franceschini, qui défend beaucoup l'architecture, et aussi le patrimoine, bien évidemment, mais qui défend aussi l'architecture contemporaine. Donc je trouve qu'il y a un juste équilibre entre les deux objectifs, les patrimoines et de l'architecture, puisque bon, l'architecture sera le patrimoine de demain.
Mmh, tout à fait.
J'étais avec eux donc hier après-midi et en fait eux le regret plutôt c'est l'absence d'architecture, la faiblesse de l'architecture, qu'elle soit patrimoniale ou contemporaine. Mmh. Donc je crois qu'il faut effectivement défendre l'architecture parce que c'est ça qui crée la durabilité de nos bâtiments. Voilà, si on va vers des bâtiments qui consomment très peu, voire qui sont en énergie positive, le mieux c'est essayer de les garder longtemps, ne pas être obligé de les détruire. Oui. On travaille actuellement sur un parc de logements, c'est une copropriété en difficulté, il y a 250 logements, et effectivement sur les 250, on en a un tiers qui a peu de qualité, voilà, mal orienté, qui reçoivent peu le soleil, Et je peux vous assurer que ce n'est pas extrêmement simple de trouver une solution pour ces logements-là.
Oui.
Donc c'est vraiment un problème de conception dès l'origine. Donc il faut vraiment travailler la conception, l'architecture. Et ça, c'est un des grands gages de la durabilité des bâtiments et la faible consommation, je dirais, à terme des bâtiments.
Est liée à la conception architecturale du départ.
Oui, ouais. Conception architecturale du départ ou reconception architecturale au moment de la réhabilitation.
Tout à fait.
Il y a parfois une manière de réorienter les bâtiments, on l'a fait plusieurs fois dans notre agence, des bâtiments qui sont mal faits, qui ont été faits parfois par des constructeurs, des maisons de constructeurs qui sont orientées au nord. Mmh. Voilà, donc on peut les retourner par des petits projets d'architecture, c'est des choses qui sont valables. Alors, en même temps qu'une réhabilitation énergétique, ça devient très intéressant.
Oui.
Vous ajoutez la réhabilitation énergétique plus une réhabilitation architecturale, ça peut devenir extrêmement intéressant.
Oui, oui. Vous pouvez même rajouter, en changeant de place les pièces, des vérandas plein sud pour recréer un effet tampon, effet de serre sur la maison. C'est ce que j'ai vu dans un de vos exemples. C'est très bien, ça aussi.
Voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec les architectes. Je défends l'architecture.
C'est bien.
Voilà, il y a plein de jeunes architectes qui ont plein de talents, plein d'allants. Donc, il faut, je crois, pas avoir peur de travailler avec eux. Éventuellement, bien se renseigner auprès des associations. Dans chaque département, il y a souvent des associations qui militent sur l'architecture auprès des CAE, des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, soit auprès d'associations écologiques, soit auprès de ce qu'on appelle les points info énergie, qui sont des organismes financés par l'ADEME qui aident à la réhabilitation et à la construction efficace au point de vue énergétique. Donc pour des gens qui sont porteurs de projets, pour des clients, des propriétaires de maisons à réhabiliter, je crois qu'il faut dans un premier temps se renseigner sur les architectes qui sont à même de prendre en charge ce type de réhabilitation.
Oui.
Et je pense que c'est vraiment une source de garantie. Alors souvent on dit, bon, l'architecte coûte cher, c'est vrai qu'il coûte de l'argent, généralement il n'est pas riche par ailleurs, surtout ceux qui travaillent sur des petits bâtiments, mais il vous permet aussi d'économiser, je dirais, de l'argent en rationalisant la dépense, et il permet aussi de faire que votre maison, que votre bâtiment, que votre immeuble dure plus longtemps, parce qu'il sera bien adapté à vos besoins, bien fait.
Et en plus avec du caractère, ce qui ne gâche rien parfois.
Voilà, avec du caractère, et donc ça crée vraiment le phénomène de durabilité. Donc si l'architecte en plus est sensibilisé à ces problèmes écologiques, bon, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup de formations dans le domaine, je crois qu'il y en a une quarantaine qui sont portées par la direction d'architecture dans le ministère. Donc il y a quand même beaucoup d'architectes qui ont été formés à ces thématiques-là maintenant. Donc avoir un architecte qui porte ces thématiques de l'efficacité énergétique, de l'écologie, et qui porte aussi une volonté d'architecture, ça garantit une belle réhabilitation, que ce soit une maison, un immeuble, une usine.
C'était un entretien de Jean Tonelli pour Radio Éthique avec Pierre Lévy, auteur de l'ouvrage « La rénovation écologique, principes fondamentaux, exemples de mise en œuvre » aux éditions Terre Vivante.